France Inter.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good.
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui, ultime épisode de notre série consacrée à notre héros musical. Ce sera une sorte de bouquet final, de concert rêvé si vous préférez, où toutes les couleurs de sa musique seront rassemblées. Maybe I'm Amazed, Paul McCartney et Wings sur une scène de Kansas City en mai 1976 au cours d'une tournée qui s'est poursuivie en Europe et s'est même arrêtée à Paris. Cette période aujourd'hui est un lointain souvenir. Le trajet de Paul McCartney après les Beatles a été extrêmement long, plus d'un demi-siècle. Au cours de ces 53 années après la mort des Beatles, si on compte bien, le musicien a suivi bien des méandres et sa barque parfois a pu sembler enlisée. Il a cependant su enrichir son œuvre en retournant toujours à ses premiers thèmes, en les ranimant parfois avec une fraîcheur toujours renouvelée. Quel qu'ait été son amour de l'expérimentation, l'influence qu'ont pu exercer sur lui les musiques venues d'Inde, d'Asie, d'Afrique, de partout au fond, Eh bien, Paul McCartney n'a jamais cherché à ouvrir des voies vers le futur. Il a plutôt été un explorateur circulaire du même. Un poète qui a toujours su trouver dans son jardin d'enfance un sentier nouveau, une perspective jamais vue, une autre lumière. Dans cette espèce de concert idéal de Paul McCartney que j'ai préparé pour vous en guise de bouquet final, eh bien j'ai glissé certaines de ses chansons avec les Beatles qui m'ont accompagné toute ma vie et que je n'étais pas arrivé à placer dans les épisodes précédents. Prenez Lady Madonna, une des chansons les plus joyeuses des Beatles, un rhythm and blues à la Fats Domino. Une chanson délibérément rétro, déjà quand ils l'ont sortie en 45 tours en plein mai 68. Cette version de Lady Madonna a été chantée par Paul McCartney sur scène avec Wings le 7 mai 1976. Kansas City, une chanson américaine des années 50 que les Beatles chantaient à la Cavern de Liverpool, un rhythm and blues qui figure dans leur album Beatles for Sale, paru fin 1964. C'était leur quatrième album, paru en moins de deux ans. Ça allait très vite en ce temps-là. Réinterprété, c'est la version que vous venez d'entendre, en 1987 par Paul McCartney. Alors qu'il se sentait au creux de la vague, Paul s'était revivifié, ce ne serait pas la dernière fois, à la source de son adolescence, le rock'n'roll. Un lundi de juillet 1987, donc, il a fait venir dans son moulin du Sussex, dans le sud-est de Londres, à près de la côte, des amis musiciens, voisins, notamment l'excellent guitariste de rock'n'roll Mick Green, hélas disparu, qui animait un excellent trio, les Pirates, et le clavier Mickey Gallagher, qui avait joué au sein des Blockheads, le groupe du poète cockney Ian Dury. Et en deux jours, eh bien, ils ont joué, enregistré et mixé, donc en deux jours seulement, des classiques de rhythm and blues et de rock and roll chers au cœur de McCartney, Fats Domino, Eddie Cochran, Little Richard. Le résultat avait tellement plu à McCartney qu'il lui était venu une idée assez baroque, publier le fruit de ces deux journées d'enregistrement sous la forme d'un album présenté comme un, entre guillemets, pirate officiel. C'est-à-dire que l'idée était de faire croire qu'il s'agissait d'une importation venue d'Union soviétique. Et même, l'idée était allée encore plus loin, puisque Paul et son équipe ont pris contact carrément avec les autorités de l'Union soviétique, qui était encore debout à cette époque, quoique plus pour très longtemps. La compagnie officielle Mieladia, la seule du pays, bien sûr, c'était le communisme, avait accepté de presser 500 000 exemplaires sur lesquels, évidemment, les collectionneurs occidentaux s'étaient aussitôt précipités. L'album s'appelait Snova VCCR, c'est-à-dire De retour en URSS, Back in the USSR, évidemment.
France Inter,
RTBF La Première. We'll be right back.
Jet, une chanson qui a été un des plus grands succès de Paul McCartney avec son groupe Wings. C'était en 1973. La version que vous venez d'entendre remonte quant à elle à l'année 1990. Elle a été enregistrée au stade de Wembley dans la banlieue de Londres. Jet figurait dans un album signé donc Paul McCartney et Wings qui s'appelait Band on the Run, qui a rencontré un immense succès à sa sortie dans le monde entier et a apporté aux musiciens un nouveau public, un peu plus jeune parfois que celui des Beatles. En fait, Paul McCartney, Linda, leur famille et leurs musiciens avaient décidé pour enregistrer cet album de partir pour Lagos, au Nigeria, afin d'occuper un studio que EMI avait fait équiper là-bas. Cependant, cet enregistrement n'a pas été de tout repos, il s'en faut. Le studio déjà a été équipé très sommairement et il y avait eu un événement qui avait failli tourner au tragique, c'est qu'une bande de voyous avait dépouillé Paul et Linda dans une rue de Lagos et ça avait été à deux doigts de se terminer avec des coups de poignard. Pour tout arranger, le musicien star de Lagos, Fela, une sorte de roi local, avait accusé Paul McCartney et ses musiciens blancs de venir voler la musique des Africains. Après quoi, néanmoins, Fela et McCartney avaient fait la paix, d'autant que celui-ci avait une immense estime pour la musique de l'autre. Il raconte même, Paul, qu'il a un soir été ému aux larmes en allant écouter jouer Fela. Je vous parlais tout à l'heure de l'ancienne Union soviétique. Difficile de ne pas écouter dans une série consacrée à Paul McCartney une des chansons créées avec les Beatles en 68 et qu'il ne manque jamais de chanter à ses concerts récents « Back in the USSR ». En 68, cette chanson qui mettait en scène un citoyen soviétique préférant son pays aux États-Unis s'inscrivait dans un contexte où la guerre froide commençait à baisser en intensité. Malgré la guerre du Vietnam qui faisait encore rage, le terme de détente commençait timidement à faire son apparition. En tout cas, Paul McCartney a particulièrement savouré, c'est lui qui le dit, le jour où il a chanté « Back in the USSR » en 2003 sur la Place Rouge. Cette version remonte à une tournée américaine au printemps 2002.
Back in the USSR. Well, the music played.
Paperback Writer, Paul McCartney et son groupe sur une scène américaine en 1993, c'était encore du vivant de sa femme Linda. Une chanson à 100% écrite par Paul que les Beatles avaient créée en 1966 et publiée en 45 tours, enfin single, deux mois avant l'album Revolver. Elle avait déjà un parfum psychédélique et comme Paul le confesse, le fait de commencer à fumer des pétards avait contribué à élargir son horizon. Paperback Writer, un auteur de livres de poche, en français on dirait plutôt un auteur à succès. Paul, qui lisait pas mal et avait pu avoir des conversations grâce aux parents de sa fiancée Jane Asher avec des écrivains comme Kingsley Amis et Harold Pinter, a imaginé dans cette chanson qu'il écrivait une lettre à un éditeur et la chanson dit pratiquement à la lettre, je cite, « Cher monsieur ou madame, lisez s'il vous plaît mon manuscrit ». Il m'a demandé des années de travail, il fait 1000 pages. Si ça vous plaît, je peux en écrire d'autres et même changer des choses si vous voulez. Il chante même dans la chanson, hein, le pitch du livre, hein, comme on dirait aujourd'hui en franglais. C'est la sale histoire d'un sale type. Il a une femme très collante qui ne le comprend pas. Il a un fils journaliste au Daily Mail, un quotidien populaire. C'est un boulot solide, mais en fait, il voudrait être un auteur à succès. Alors, on ne peut pas consacrer une émission finale à Paul McCartney sans écouter cette suite, entre guillemets, que tout le monde ou presque connaît parce qu'elle clôt la seconde face de l'album Abbey Road des Beatles. Les paroles de Golden Slumbers, songe d'or au pluriel, par laquelle débute cette chanson, ont, Paul l'a raconté, une source ancienne. Golden Slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Des songes d'or emplissent tes yeux, des sourires te réveillent quand tu te lèves. C'est un peu désuet. Et ça laisse une vieille chanson, en fait, dont il avait vu les paroles sur une partition posée sur le piano droit de la maison de son père, et pour laquelle il avait trouvé un air nostalgique qui lui rappelait la joie de son foyer quand toute la famille se réunissait à Noël autour du piano, chantait et buvait pas mal aussi. « Je me souviens, écrit Paul, que pour le petit garçon que j'étais, il y avait quelque chose de fabuleux dans tout ça. » Ces vieilles chansons auxquelles on redonnait soudain vie grâce au piano. Ces paroles dont tout le monde se souvenait, surtout les tantes, elles les connaissaient par cœur. Et il ajoute ceci. « Quand j'étais jeune, je pensais que la famille McCartney était pareille aux autres. Mais aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue de naître au milieu de personnes bonnes, honnêtes et gentilles. On n'était pas riches, personne n'avait le moindre sou, mais c'était presque un avantage parce qu'ils devaient tout faire par eux-mêmes. »
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby.
Et à la fin, l'amour que l'on reçoit est égal à l'amour que l'on déploie. Traduction sans doute un peu trop littéraire, un peu trop 17e siècle. Il y en a sûrement une infinité d'autres possibles, sans doute meilleures. C'est la formule qui clôt l'album Abbey Road, The End, juste avant le petit post-scriptum rigolo de Her Majesty. Pour Paul McCartney, la formule de The End est une sorte de karma, comme il le dit, une notion qu'on trouve dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme. En gros, on récolte ce qu'on sème. Bon, ça aussi qui va suivre, difficile de s'en passer. C'est la version dite « naked », nue, conforme à l'enregistrement d'origine, tel que voulu par Paul McCartney, que je vous propose. une version qu'il a diffusée en 2003, 33 ans après l'avoir enregistrée avec les Beatles. Je pense que vous reconnaîtrez une chanson qui lui est venue à un moment où ça n'allait pas fort du tout à la fin du groupe. Sa mère, morte depuis plus de 10 ans, lui était apparue en rêve. Et imaginez qu'il y a aussi du Shakespeare là-dessous, puisqu'à la fin de Hamlet, il y a ces vers dits par Hamlet agonisant « Oh, I could tell you, but let it be. Horatio, I am dead. Oh, je pourrais t'en dire, mais laissons. Horatio, je suis mort. » Paul l'a chanté pour la première fois sur scène en 1985 pour le célèbre concert humanitaire Live Aid, malgré la recommandation du chanteur Sting, qui estimait que « Let it be », « laissons »,« laissons faire »,« laissez faire » était un message de résignation, soit tout l'inverse de ce qu'il fallait, à son sens, faire entendre ce jour-là. Paul McCartney n'a pas été convaincu par l'argument de Sting et il a chanté « Let it be », qui, il l'admet, se transforme facilement en une semi-prière. « Je ne suis pas croyant dans le sens traditionnel du terme », précise-t-il, « mais je pense qu'il existe une force supérieure qui peut nous aider. »
France Inter,
RTBF La Première.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Thank you.
It's not so good when you're on your own. I'm very sure this never happened to me before. I met you and now I'm sure.
Encore une chanson d'amour niaise, entre guillemets, Silly Love Song, signée Paul McCartney, plus de 30 ans après Let It Be. Elle s'appelle This Never Happened Before, ce n'est jamais arrivé avant, et figure dans un des plus beaux albums enregistrés en solo par Paul McCartney, Chaos and Creation in the Backyard, publié en 2005, qui avait supervisé un jeune réalisateur artistique anglais, Nigel Godrich, collaborateur régulier du musicien californien Beck et du groupe anglais Radiohead. Godrich avait demandé à McCartney de travailler sans ses accompagnateurs habituels et de tenter une approche différente, pas si éloignée des enregistrements que celui-ci réalisait seul chez lui. Paul y a joué de très nombreux instruments, outre les diverses guitares, basses et claviers habituels, flûte à bec, sitar, un C-I-T-H-A-R-E, pas le sitar indien, violoncelle, carillon et diverses percussions. L'album résultant était orné d'une photo de Paul, très jeune homme, dans le petit jardin de la maison paternelle à Liverpool, une photo prise par son jeune frère Mike. Il a marqué cet album un retour en grâce de Paul McCartney auprès de la critique, dont les éminents membres s'étaient habitués à le prendre de haut. C'était dû aussi en partie à un effet nostalgique. Pour la première fois de manière aussi patente, en tout cas, Paul McCartney revenait à une approche plus intime qui rappelait le meilleur de ses enregistrements en solo à ses débuts ou encore à certains sons propres aux Beatles, folk, baroque ou psychédélique. On a pour autant moins remarqué l'album suivant paru en 2007, Memory Almost Full, tout aussi excellent et dont je retiens cette chanson poignante, The End of the End, la fin des fins. Paul avait 65 ans quand il l'a chanté, un âge qui, heureusement, enfin, je croise les doigts, ne marque plus la fin de la vie pour les hommes en Occident. C'était tout de même encore le cas il y a trois quarts de siècle. Mais enfin, on est obligé à cet âge-là de plus en plus de penser à la fin qui se rapproche, un peu comme si on marchait sur un tapis roulant dont la vitesse ne cesse de s'accélérer. The End of the End, c'est une chanson bouleversante où Paul égrène la liste de ses souhaits pour son enterrement. C'est très irlandais, après tout, ce sont ses origines. Et bien sûr, il y a par-dessus ça sa légèreté, son sourire en coin pour dire « Allez, en faites pas des tonnes, tout ça n'est pas si grave. » À la fin des fins, chante-t-il, c'est le début d'un voyage vers un lieu bien meilleur. Mais celui-ci n'était pas si mal, alors un lieu bien meilleur, il faudrait qu'il soit vraiment spécial. Le jour où je mourrai, je voudrais qu'on fasse des blagues et qu'on déroule des vieilles histoires comme des tapis sur lesquels jouaient les enfants en écoutant ces vieilles histoires. Pas la peine de pleurer, pas la peine d'être triste à la fin des fins.
At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. And this wasn't bad, so a much better place would have to be special, no need to be sad. On the day that I die, I'd like jokes to be told and stories of old to be rolled out like carpets the children have played on and laid on while listening to stories of old. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. A much better place would have to be special. No reason to cry.
On the day that I die, I'd like bells to be rung and songs that were sung to be hung out like blankets that lovers have played on and laid on while listening to songs that were sung. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. And a much better place would have to be special. No reason to cry. No need to be sad. At the end of the end.
France Inter,
RTBF La Première.
Mishka Assayas, Very Good Trip, Paul McCartney.
The end of the end, la fin des fins. Heureusement, la route n'est pas terminée pour Paul McCartney, mais elle l'est pour cette série de 9 épisodes qui lui a été consacrée, qui j'espère a apporté pour celles, ceux qui ne le connaissaient que de loin, un éclairage inattendu et révélé des beautés peut-être insoupçonnées d'eux. J'ai surtout eu à cœur de venir à bout de certains préjugés qui, en dépit des évidences, continuent à peser sur Paul McCartney. Insignifiance, mièvrerie, gentillesse fade, que sais-je encore, alors que sa légèreté même est, si j'ose dire, le secret de sa profondeur. Quant aux autres, les super érudits et connaisseurs infaillibles de l'œuvre du maître, sans doute auront-ils regretté que je ne diffuse pas telle perle de leur trésor personnel, ou alors ils ont froncé les sourcils en entendant telle formule qu'il aura paru inexacte, voire erronée. Ceux-ci ou d'autres auraient souhaité que j'évoque la découverte par McCartney de l'œuvre d'Alfred Jarry, par exemple, en particulier Ubu Cocu qu'il avait entendu à la radio, une pièce pour laquelle il aurait rêvé d'écrire une musique. Il l'a d'ailleurs fait, les bandes ont même été publiées, mais le spectacle n'a jamais pu être monté. Et d'ailleurs, Paul a cité la pataphysique inventée par Jarry dans la chanson comico-cruelle des Beatles, Maxwell Silverhammer. J'aurais pu mentionner aussi sa pratique régulière depuis une quarantaine d'années de la peinture, encouragée par le peintre new-yorkais d'origine néerlandaise Willem de Kooning, qu'il avait connu dans les années 80 à New York. Et j'aurais pu aussi parler de sa passion pour la photo, passion qui s'est révélée à un très jeune âge, puisque vient tout juste d'être publié un album de photos retrouvées, prises par Paul alors qu'il avait à peine 22 ans, à New York et dans d'autres villes américaines, lors de la première tournée américaine des Beatles. Le titre anglais, c'est « Eyes of the Storm », en français, ça s'appelle « 1964, dans le tourbillon de la Beatlemania ». Je plaide coupable pour tous ces oublis et tous les autres. Que dire pour ma défense ? J'ai trop d'affection envers l'œuvre de Paul McCartney pour être objectif et froidement méthodique. Ouvrir l'éventail musical au maximum, faire découvrir toute sa palette, voilà ce à quoi je me suis efforcé en omettant sciemment ce qui, à mes oreilles, était peut-être moins radiophonique et accessible à tous. Qu'on me permette, pour finir, une dernière note personnelle. Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école primaire, les journées de classe s'écoulaient à une lenteur pour moi insupportable. Et je rêvais que les Beatles, et en particulier Paul McCartney, viennent dans mon école. Et oui, il y avait une porte basse à l'entrée, creusée donc à la taille des enfants, et je me disais, pensée de petit enfant, il faudra qu'il se baisse pour entrer parce qu'il est grand. Eh bien, d'une certaine façon, mon vœu a été exaucé. Paul McCartney a débarqué dans mon décor, il est entrer dans ma vie pour y apporter une magie toujours renouvelée. Grâce à lui, je suis resté cet enfant qui rêve encore. Que Paul en soit remercié s'il m'entend quelque part.
I don't care to be bad. I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still all right to be nice. Yankee toes and Eskimos, content, frozen ice. When the cold days come and the old ways
Day, cueille le jour qui vient, bah c'est une belle conclusion. Une chanson qu'on peut entendre dans le tout dernier album qu'a publié Paul McCartney, qu'il a fait tout seul chez lui pendant le confinement et qui s'appelle McCartney 3. Voilà, je quitte Paul McCartney à regret, je vous quitte aussi tristement, mais bon voilà, la vie continue. Merci infiniment à Josépha Lebrun qui a réalisé toute cette série. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique aujourd'hui. Merci également à François Merlin et Romain Couturier à la discothèque de Radio France.
Merci beaucoup, au revoir.
Good night, Paul.
Say good night, John.
Good night, Paul.
Good night.